BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business, en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Énormément de choses, comme tous les soirs, à vous raconter. D'abord, cette facture des EPR français, des futurs EPR français qui est en train de s'envoler. Ça, malheureusement, c'est pas une surprise. Alors, c'est pas une surprise, mais ça tombe mal. L'info sort le jour où Emmanuel Macron est en République tchèque, justement, pour aider, notamment EDF, à vendre 4 EPR sur place. On va voir ça dans un instant, et puis on va reparler, bien sûr, avec nos experts qui reviennent dans un cadre.
Alors, ce soir, on voyage. Tout d'abord, on part en Chine avec cet objectif de croissance qui vient d'être annoncé par le gouvernement chinois, 5%. Ça confirme quand même la fragilité de la reprise pour la deuxième puissance économique mondiale. Et puis, c'est le Super Tuesday aux États-Unis. Donc, c'est la course à l'investiture et le match Joe Biden-Donald Trump se dessine sur le plan économique. Et Guillaume, tous les opposent.
Absolument, on verra ça en détail, évidemment, plus d'autres sujets. Qui sera avec nous pour parler de ça? Nicolas Marquez, qui était avec nous de l'Institut Molinari, va revenir nous voir. L'ancien député européen Lim Wang Nok sera là. Et l'économiste Pascal Delima. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, jusqu'à 20h.
A tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc beaucoup de choses à voir avec vous ce soir, mais je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai même pas dit l'essentiel dans tout ça, parce que c'était attendu. Et ça y est, le Bitcoin a battu tout à l'heure un nouveau record historique. Bonsoir Étienne Braque.
Bonsoir Guillaume.
La barre des 69 000 dollars, ça y a été franchi tout à l'heure, Étienne.
Ça a été très bref. Il y a une heure, on était ensemble, moins 4%, ouais. Là, moins 2%. Donc, 69 000 dollars en début d'après-midi pour le Bitcoin, qui a progressé d'une façon fulgurante ces derniers mois, plus 50% depuis le début de l'année, fois 2 depuis novembre, fois 3 depuis un an. Donc, le Bitcoin vient de loin quand même, avec tous les déboires, souvenez-vous, de FTX, une mauvaise promo quand même. Ouais. Le Bitcoin qui était beaucoup moins à la mode en 2022-2023. Et puis là, depuis le début de l'année, c'est la fête, grâce notamment à cet ETF qui a été mis en place par BlackRock. Donc d'un seul coup, dans tous les contrats, notamment aux États-Unis de retraite, vous avez du Bitcoin. Donc vous avez des achats massifs qui se font là, qui bien sûr propulsent le Bitcoin vers le haut. C'est peut-être aussi une opportunité pour certains investisseurs qui se disent, Wall Street est au plus haut, Nvidia ça vaut 2000 milliards, on va pas mettre ses œufs dans le même panier. Et puis, un petit peu comme tous les actifs risqués, faut pas oublier que, mine de rien, là, le monétaire va commencer à baisser avec les banques centrales qui vont baisser leurs taux. Donc, forcément, les actifs risqués devraient mieux se comporter dans les prochains mois. Donc, tout ça propulse le Bitcoin, qui a donc touché pour la première fois tout à l'heure les 69 063 dollars.
Bon, le cofondateur Ledger, qui était hier sur BFM Business, dit toujours, moi, je vois toujours 100 000 à la fin de l'année, personnellement. Voilà ce qu'il nous a dit, voilà. Ça serait bon pour lui, donc ça l'arrange. Voilà. On va continuer dessus, ça, évidemment. Merci Étienne, on vous retrouve dans un instant pour faire le point sur la mi-séance à Wall Street, bien évidemment. 19h04 dans l'actualité ce soir, il y a donc cette mauvaise pub, une de plus pour l'EPR. Le journal Les Échos révélait ce matin que la facture des 6 premiers EPR français par rapport aux estimations initiales allait prendre 30%. L'info est sortie le jour où Emmanuel Macron est en République tchèque, justement pour aider EDF à vendre 4 EPR là-bas. Bonsoir Mathieu Couache, vous êtes à Prague. Ça n'a pas empêché tout ça Emmanuel Macron de faire la retape de l'offre française tout à l'heure.
Ah oui, je peux vous dire qu'il s'est même transformé en VRP d'EDF à chaque étape de cette visite depuis ce matin en République tchèque. Ça a commencé en vantant donc le champion français du nucléaire civil dans la presse locale ce matin, puis devant la communauté française, ensuite avec le président Petr Pavel, avant de signer un partenariat stratégique avec le premier ministre tchèque cette fois, partenariat qui contient un volet énergie. Et à chaque fois, le même message d'Emmanuel Macron: en choisissant EDF, la République tchèque choisirait un acteur européen. Et si elle se tournait vers des réacteurs coréens qui sont en concurrence avec EDF, c'est la souveraineté européenne qui serait mise à mal. Écoutez le président de la République.
Nous devons apporter une solution aux défis climatiques. Nous devons être plus souverains en matière d'énergie et donc la produire sur notre sol. Et nous devons produire une énergie compétitive. Le nucléaire répond à cette stratégie.
Et puis Emmanuel Macron n'est pas arrivé les mains vides ici et à Prague. Il a décidé de soutenir une initiative tchèque d'achat de munitions pour l'Ukraine en dehors de l'Union européenne. Au départ, la France était contre cette idée et certains y voient un signe de bonne volonté française qui pourrait peser dans le choix des futurs réacteurs nucléaires. Réponse des Tchèques donc sur leur choix entre EDF et le sud-coréen KHNP en fin d'année ou début 2025.
Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Kouache donc à Prague pour BFM Business. Emmanuel Macron qui a malgré tout fait le job, qui a fait le VRP pour EDF, qui espère vendre 4 EPR. Je vous rappelle donc les infos des Échos. Facture, première estimation à quelques années à 51 milliards d'euros pour les 4 EPR. On serait passé, d'après le journal, à un peu plus de 67 milliards d'euros. On en reparlera bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Et puis dans l'actualité ce soir, c'est le grand jour, celui du Super Tuesday aux États-Unis. On vote pour les primaires dans 15 États du pays. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Grosse journée, mais bonsoir. A priori très faible suspense, Antoine.
Oui, alors c'est vrai que d'habitude, le Super Tuesday, c'est une journée décisive qui peut faire basculer la course à l'investiture. Mais cette année, il n'y a absolument aucun suspense. Côté républicain, c'est Donald Trump qui va s'imposer. Il est tellement en avance dans les sondages qu'il a à peine fait campagne ces derniers jours pour le Super Tuesday. Trump qui espère une victoire écrasante qui lui permettrait de donner le coup de grâce à Nikki Haley, la seule rivale qui est encore face à lui. Pour le moment, Nikki Haley s'accroche. Elle espère être un plan B dans le cas où Trump se retrouverait hors jeu à cause de ses ennuis judiciaires. Sauf que ce scénario semble de moins en moins probable et franchement on voit mal comment Nikki Haley va pouvoir survivre à ce Super Tuesday, surtout que ses gros donateurs sont en train de la lâcher. Elle n'aura de toute façon bientôt plus d'argent pour continuer sa campagne. Et puis côté démocrate, là non plus, aucun suspense, c'est Joe Biden qui va rafler la mise. Il n'a aucun candidat sérieux face à lui, donc pas de suspense, pas de surprise aujourd'hui, mais quand même une journée qui reste très importante parce qu'elle est en train de mettre en place le duel présidentiel, ce match retour entre Biden et Trump, une affiche qui ne fait pas du tout rêver les Américains et qui pour le moment ne déclenche pas beaucoup de passion ici aux États-Unis.
C'est le moins qu'on peut se dire. Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard donc à Washington pour BFM Business. En France, on y revient, c'est historique dans la grande distribution. Leclerc Intermarché rejoignent les rangs de la Fédération du commerce et de la distribution aux côtés de Carrefour, d'Auchan et de tous les autres acteurs. Jacques Ressel, le délégué général, était avec nous tout à l'heure. Il a dit, on espère que tout ça va permettre de cimenter la profession face aux défis qui l'attendent. Les contours de la nouvelle loi Egalim notamment qui s'annonce, écoutez.
L'enjeu de la décarbonation, l'enjeu de l'économie circulaire, l'enjeu de la digitalisation, l'enjeu des compétences, sur tous ces sujets-là, on a besoin que l'ensemble des grandes enseignes, à la fois de l'alimentaire, mais aussi des grandes enseignes spécialisées, les Fnac Darty, les IKEA, les Leroy Merlin, que tout le monde travaille ensemble, parce que, d'abord, ça économise des coûts pour toutes ces enseignes, et ensuite, ça permet d'être plus efficace, plus réactif, et donc, pour nous, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de fondamental. Il n'y a jamais eu autant d'enjeux, il n'y a jamais eu autant de défis pour le secteur, donc il faut qu'on travaille, il n'y a pas de choix, il faut que tout le monde soit autour de la table.
Voilà, Jacques Ressel avec Edwige Chevrillon tout à l'heure sur BFM Business, et puis on voulait dire un mot des résultats de Thalès, qui sont bons, 18,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, marge à plus de 11%. Le carnet de commandes est plein, mais ça va mal quand même dans le spatial, particulièrement dans les satellites civils. La preuve, le groupe devrait supprimer 1300 postes dans cette branche. Jean-Baptiste Huette.
Chez Thales, le spatial cherche un second souffle. D'un côté, les perspectives de croissance dans l'exploration, la navigation, l'observation de la Terre, les services sont toutes bien orientées. À l'inverse, le marché des télécoms civils dévisse. Les gros satellites géostationnaires à 36 000 km d'altitude ne font plus recette. Le marché a été divisé par deux à raison de 10 satellites télécoms par an. Insuffisant. Une activité bousculée par le phénomène des petits satellites et des constellations. Nous pensons que c'est durable et structurel, explique-t-on chez Thales. Conséquence, 1300 postes vont être supprimés, dont 1000 en France. Il y aura zéro départ contraint, précise Patrice Kane, le PDG de Thales. Les salariés seront redéployés au sein du groupe dans la défense, l'aéronautique ou encore la sécurité. Il s'agit de préserver coûte que coûte les compétences si difficiles à trouver. Un reformatage des activités qui doit permettre de restaurer la profitabilité et les marges. D'ailleurs, dans les petits satellites, les opportunités ne manquent pas. Le groupe est en effet sur les rangs pour participer à la conception et à la fabrication d'Iris 2, la future constellation européenne, mais également sur d'autres projets de constellation encore tenus secrets.
Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Il n'y a pas que le Bitcoin non plus dans la vie et les cryptos. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Tiens, CAC 40 qui termine en légère baisse ce soir, moins 0,3%, 7932 points. Ça a l'air un peu plus agité à Wall Street, Étienne, en ce moment.
Oui, avec surtout un Nasdaq qui perd quasiment 2%, sous la pression de Tesla qui perd 4%, avec un groupe activiste où il y a eu des sabotages du côté de Berlin dans l'usine de Tesla, un sabotage électrique. Donc là, Tesla dit ouvertement, on ne sait pas quand l'usine va rouvrir, ça va nous coûter plusieurs centaines de millions d'euros.
C'est un peu le chemin de croix à Tesla en Europe, là, on a
l'impression quand même. Un peu. Hein. Et donc là, Tesla qui est obligé de fermer son usine pendant plusieurs jours. Donc vous avez le titre qui perd quasiment 4%. Vous avez Apple qui perd 2,5% avec l'iPhone qui n'est plus leader en Chine. Hein, des ventes qui baissent depuis le début de l'année. Hein. Donc ça, c'est pas bon, sachant que la moitié du chiffre d'affaires d'Apple, c'est l'iPhone. Donc vous avez quelques prises de bénéfices, sachant que la semaine dernière, je me répétais, on est sur des records. Bon, bah là, ça respire un peu. Surtout que demain et jeudi, vous aurez deux auditions de Jerome Powell devant le Congrès américain. Vendredi, l'emploi US également, donc une fin de semaine qui sera chargée. Un dernier mot quand même sur l'once d'or qui est sur un record. Il n'y a pas que le Bitcoin qui est sur un record. L'once d'or également est sur des plus hauts historiques, au-delà des 2140 $ pour une once d'or.
Nous en sommes là. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business, 19h11. On revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, bien sûr, et nos experts. De quoi est-ce qu'on parle ce soir? Il y a beaucoup de choses. Le PR français, Emmanuel Macron qui fait la retape à Prague alors que des infos pas très encourageantes pour la facture française viennent de tomber. On parlera évidemment de la Chine qui doit faire 5% de croissance, mais enfin ça sent pas la grande conviction. Et puis le Super Tuesday, Biden et Trump n'ont pas beaucoup parlé écho. Bah nous on va voir un petit peu ce qu'ils ont dans leur réservoir sur ce sujet. Tout ça jusqu'à 20h bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h15, les experts du soir vous parlent nucléaire. Nous sommes avec Lim Wong Ngoc, maître de conférence en économie à Paris, ex-député européen. Bonsoir Lim.
Bonsoir.
Nicolas Marquez, vous êtes resté avec nous. Vous êtes toujours directeur général de l'Institut économique Molinari. Bonsoir. Et puis Pascal de Lima, bonsoir, chef bonsoir. Économiste chez CGI Business Consulting. Donc, Guillaume, ces EPR qui ont bien mauvaise presse, hein, puisque c'est le journal Les Échos qui affirme aujourd'hui que la facture des 6 premiers devrait augmenter de 30% par rapport au coût initial.
Et c'est là que c'est... Alors je dis c'est pas de chance, hasard ou coïncidence, ça sort le jour où Emmanuel Macron, vous savez, était à Prague aujourd'hui avec tous les patrons de la filière nucléaire parce qu'EDF est candidate pour construire 4 EPR là-bas. Emmanuel Macron n'a pas commenté les infos des Échos, mais vous allez voir, il s'est employé quand même comme il a pu à jouer les VRP de l'offre française en la matière. Écoutez.
Sur la question du nucléaire civil, le partenariat qui est le nôtre est à mes yeux très fort. Il est aujourd'hui de nature politique. Nous allons signer un accord industriel sur l'uranium tout à l'heure. Nous souhaitons aller encore plus loin, et la France, vous le savez, est candidate au grand prospect que la République tchèque aura à décider. Mais c'est notre conviction que se joue aussi une partie de cette souveraineté européenne qu'on évoquait là. Nous devons apporter une solution aux défis climatiques et émettre moins de CO2. Nous devons être plus souverains en matière d'énergie et donc la produire sur notre sol plutôt que de dépendre de ce qu'on importe. Et nous devons produire une énergie compétitive, pilotable, pour continuer à créer des emplois. Le nucléaire répond à cette stratégie.
Et oui, la France est concurrente pour ce très gros projet. Je rappelle qu'elle est concurrente face aux Coréens, aux Sud-Coréens, pardon, KHNP. Il semblerait que EDF croit cette fois en ses chances pour emporter cet appel d'offres. Lim, vous y croyez aussi?
Bah oui.
Bah, c'est très bien. Bah, vous n'étiez pas obligé, parce que je vous rappelle quand même que EDF a un retard terrible, notamment sur le chantier Hinkley Point en Grande-Bretagne. Bon, c'est 5 ans de retard et 20 milliards d'euros de surcoût. Donc on pourrait se poser des questions.
Les Sud-Coréens sont meilleurs que nous.
Ah bah justement.
C'est une bonne question.
Alors, et la réponse est non.
Bah, moi j'ai confiance dans la technologie déployée par.
Par les Français.
Nos ingénieurs. Après, le non,
quand
problème
même,
du coup,
on est quand même parlé d'une technologie qui a 25 ans, le PR3, et vous en avez 6 qui marchent, qui soient en cours de construction, soit c'est quand même.
J'entends bien, mais le problème qu'on va avoir, c'est surtout en interne.
C'est-à-dire
vous avez parlé du coût qui a été réévalué à la hausse. Moi, le plus gros problème que je vois, c'est pas tant à l'export, c'est. C'est le fait qu'il va falloir que EDF revoie sa stratégie pour dégager les ressources nécessaires. Ils ont décidé de se passer des aides d'État en augmentant les tarifs et en ne recourant pas aux contrats pour différence qui sont autorisés par l'Union européenne désormais. J'ai le sentiment que faire payer la facture aux consommateurs ne suffira pas et qu'il va falloir recourir aux aides d'État. Et il y a une bonne nouvelle cette semaine, c'est que le Parlement français est en train de discuter d'une proposition de loi déposée par Philippe Brun,
député socialiste,
pour s'opposer au démembrement d'EDF au cas où la Commission remettrait le couvert sur ce sujet.
Sur le monopole, oui.
Donc si on recourt aux aides d'État et qu'on verrouille de ce côté-là, je pense qu'on peut le faire.
On a l'impression quand même que le message subliminal d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Prague, c'était de toute façon, il n'y a que le nucléaire, il n'y a pas d'alternative au nucléaire. Donc pensez ce que vous voulez de l'EPR avec ses fragilités, avec ses retards, avec ses surcoûts.
Oui.
Le bon sens veut que vous choisissiez l'EPR, irrémédiablement, Pascal.
Sur la question interne, indiscutablement, il faut aussi intégrer un certain nombre d'externalités négatives liées à la production du nucléaire, ce qui n'est pas toujours réalisé dans les fonctions de production des entreprises. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait effectivement qu'il y a souvent des retards dans la construction des EPR, qu'il y a des coûts d'ingénierie, d'études d'ingénierie aussi qui ont explosé, qu'il y a des provisions pour risques et charges qui sont un peu plus importante, il faut rentrer un petit peu dans la comptabilité, mais c'est très fréquent dans ce secteur d'activité-là qu'on réajuste ensuite les coûts de façon globale. Et puis sur le sujet externe, qui est lié à la République tchèque, là j'y vois un argument économique et un argument politique, et un argument économique qui est effectivement de dire que nous avons là une filière nucléaire qui peut aussi s'exporter, et donc ça va tirer un petit peu la filière par l'export, on a un déficit commercial, on a un avantage comparatif important, comme l'a très bien dit Guillaume aussi, et donc par conséquent il y a des raisons économiques de le faire, et puis bien évidemment, on est sur des sites aussi en République tchèque, des sites de l'ancienne Union soviétique à rénover, donc un message un petit peu politique
dans le contexte actuel. Pour tempérer un tout petit peu cet enthousiasme, l'autre difficulté dont nous n'avons pas parlé, c'est que Prague demande à ce que soit réalisé un réacteur de plus faible puissance, donc différent de l'EPR qui est déjà existant. Au moment où EDF cherche à réaliser des économies d'échelle, ça voudrait dire qu'elle construirait son cinquième modèle sur mesure, donc ça complique un peu la donne quand même, non Nicolas?
Oui, mais ça va dans le bon sens. D'abord, aujourd'hui, à Prague, la moitié de l'électricité est faite avec du charbon.
Oui.
Et donc, ça produit 190 fois plus de CO2 ou d'équivalent CO2 que le nucléaire. Et aujourd'hui, en République tchèque, 37% de l'électricité est d'origine nucléaire et leur objectif, c'est de passer à 60%. Donc finalement, ils ont une stratégie qui ressemble étrangement à la stratégie française, qui est de dire on va décarboner avec du nucléaire. Donc j'ai envie de dire, ça va dans le bon sens. Par rapport à ce que disait Liam, je suis pas persuadé que tout soit qu'on soit certain d'emporter le contrat. Pourquoi ? Parce que les Coréens...
C'est ça ou la Corée du Sud, hein ?
Ouais, mais ils sont très très bons, parce que les Coréens du Sud, ils sont dans l'état de la France, dans le nucléaire dans les années 80. Ils ont produit en grande série et maintenant ils vont à l'export comme on l'a fait à l'époque et donc ils ont des coûts marginaux faibles parce qu'ils ont amorti leur grande série.
Enfin Nicolas, diplomatiquement, vous imagineriez que la France perde au profit des Sud-Coréens ?
Audrey,
je vous pose la question.
Regardez notre domaine, l'équipement militaire. Les Sud-Coréens vendent à l'Est énormément d'équipements militaires. On n'aurait jamais imaginé, il y a 10-15 ans, qu'ils soient capables de vendre toute une série de transports de troupes, d'obusiers ou autres. Et ça marche très très bien. Donc ils sont très très bons commercialement. Donc il est tout à fait possible que EDF ne gagne pas. Malheureusement
de la même manière que EDF a perdu l'an dernier en Pologne, qui avait choisi les Américains de Westinghouse.
Je prolonge la question d'Audrey, mais est-ce que vous imaginez diplomatiquement les Tchèques choisir les Coréens contre les Français dans ce combat finalement, ou ça vous paraît absolument impensable?
Compte tenu des débats géopolitiques actuels, je ne vois pas nos partenaires ne pas s'adresser à la France.
Ça serait mal vu, ça c'est sûr.
Je suis d'accord aussi.
J'espère que vous avez tous les deux raison.
Non. La décharge a quand même une mauvaise... Enfin, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qu'ont sorti nos confrères des Échos, est encore une preuve accablante qu'effectivement, malheureusement, l'EPR... Bon, il n'y a pas d'effet série, mais on disait tout à l'heure, c'est pas forcément la même raison, mais malgré tout, l'EPR traîne encore une réputation, je veux dire, un petit peu légère, on va le dire comme ça, quand même. On est d'accord là-dessus, Lynn?
Oui, mais c'est comme toutes les technologies du futur.
Ok.
Oui.
Non, mais elle a 25 ans, cette technologie, Lim, quand même. Le PR3, ça fait 25 ans qu'on en parle, quand même. Oui, vous en avez un à Flamanville qui n'est pas fini. Vous avez un en Finlande qui a débuté il y a quoi, quelques mois, je crois, en tout et pour tout.
Ouais.
Deux en Chine, ça a été le parcours du combattant. Inklepong, on n'en parle même pas. Vous en avez finalement que 6 qui ont été soit construits, soit qui sont en cours de construction. À la Chine, une technologie qui a 25 ans. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Nicolas?
Oui, et bien complexe, parce qu'en fait, les EPR initiaux, c'est un assemblage de technologies françaises et de technologies allemandes, avec des ajouts allemands relativement complexes à déployer, et qui expliquent une partie des surcoûts et du temps supplémentaire qu'il faut pour les mettre en place. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que EDF arrive à stabiliser et faire de la grande série. Ça ne sera pas encore le cas, comme vous le
Oui, mais c'est mais parce que pour faire de la grande série, il faut arrêter de faire du sur-mesure.
Oui, et puis il faut de la commande significative.
Et voilà, exactement.
Et même les besoins ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre.
Même en France, on se propose d'acheter 6 tranches. C'est pas assez pour faire de la grande série.
Non, mais en plus, les innovations bougent beaucoup.
Pascal,
sur les EPR, je pense pas que ce soit un EPR d'il y a 30 ans qu'on va mettre en République tchèque. Il y a des évolutions technologiques derrière. C'est un modèle global, avec certaines fonctionalités globales, mais il y a aussi des briques d'innovation qui sont intégrées.
En tout cas, un contrat à plusieurs milliards de dollars pour la construction de ces 4 réacteurs, on espère évidemment que EDF l'emporte.
Et on peut dire qu'Emmanuel Macron a mouillé le maillot aujourd'hui à Prague. Pour ça, évidemment, on en reparlera. Alors sinon, dans l'actualité, c'est le grand jour, Super Tuesday aux États-Unis. On vote pour les primaires dans 15 États pour désigner, vous savez, le candidat dans chaque camp, démocrate, républicain. Ça semble plié, comme on le sait, on s'attend à un nouveau duel Trump-Biden, et ça devrait se confirmer dans les prochaines heures.
Et oui, jusqu'à présent, on a deux candidats qui ne se sont pas vraiment livrés sur leur programme, en tout cas sur le plan économique. Léa Arroja, bonsoir. Arroja, pardon. Il y a beaucoup de divergences entre eux, entre Biden et Trump, déjà sur les questions liées au climat, non ?
Oui, et commençons par Donald Trump. L'ancien président promet de ressortir des accords de Paris, comme il l'avait déjà fait au cours de son premier mandat. Deuxième point, et il le martèle à tous ses meetings, drill, 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 il faut forer. Donald Trump veut augmenter les forages de pétrole et de gaz, une façon selon lui de faire baisser les prix. Et contrairement aux idées du candidat Trump, Joe Biden veut poursuivre l'IRA, son plan de subvention aux technologies propres. L'actuel président souhaite capitaliser sur ce plan qui doit créer, selon lui, 1,5 million d'emplois en 10 ans. L'objectif climatique de Joe Biden, est simple, la neutralité carbone en 2050. Et sur le volet industriel maintenant, Joe Biden a investi dans plusieurs secteurs stratégiques ces derniers mois, les semi-conducteurs, les infrastructures portuaires et ferroviaires et évidemment les voitures électriques. De son côté, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait supprimer les subventions à la production ou à l'achat de véhicules électriques. L'ex-président veut plutôt favoriser et accélérer le développement des voitures volantes.
On continue avec le commerce international. Là aussi, il y a des idées différentes du côté des deux candidats, Léa, très clairement.
Exactement. Joe Biden envisage de nouvelles restrictions sur les produits chinois selon son administration. Il souhaite également réduire la dépendance à la Chine et délocaliser la production dans des pays alliés. Donald Trump, lui, reste ferme sur ce sujet-là et envisage une taxe de 10% sur les importations, quelle qu'en soit l'origine. Et en parallèle, il veut monter ses tarifs douaniers à 60% pour tous les produits chinois.
Alors justement, pour terminer, Léa, sur la fiscalité, on en est où ?
Sans surprise, les deux candidats restent en opposition. Biden a proposé de relever le taux d'imposition le plus élevé à 39,6%, le taux d'imposition des sociétés à 28% et la taxe sur les rachats d'actions à 4% contre 1% actuellement. De plus, il souhaite toujours un impôt minimal de 25% sur les plus riches. Donald Trump, de son côté, pourrait prôner la stabilité fiscale pour les entreprises et les particuliers.
Merci beaucoup Léa Larojo avec nous sur BFM Business. Pascal, comment est-ce que vous regardez ces... Alors, ce n'est pas vraiment des programmes, c'est les pistes qu'ils ont avancées sur le plan économique. Vous dites quoi ? Deux salles, deux ambiances ? Ou vous dites, de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est le mythe, les Américains votent le jour de l'élection avec la santé de leur portefeuille, finalement ?
Non, alors, sur le terrain économique, je vois un point commun entre les deux candidats, à savoir une volonté quand même protectionniste vis-à-vis de la Chine en particulier. Ça ressort de ce qui vient d'être dit. Il y a quand même pas mal de différences, j'en vois trois. C'est la façon, de faire du protectionnisme. Ouais. Côté Biden, on est plutôt sur des normes réglementaires, sur des normes, je dirais, quantitatives. On est moins sur l'explosion de droits de douane, comme c'est le cas de Donald Trump. Sur la question environnementale, bien sûr, où là, on a un candidat, Biden, qui est pro-environnementaliste, on va dire, sur les métiers de demain, de la technologie, du green, etc., avec les accords de Paris, comment se conformer aux accords de Paris en 2050 sur la question des émissions de CO2. Alors que côté Trump, on est clairement pour une autonomie totale et pour...
Drill, drill, drill.
Exactement. Ouais. Et puis les impôts, bien sûr, côté côté Trump, on est sur une baisse des impôts, sur la continuité de son mandat qu'il avait fait, en fait, alors que côté Biden, on est plutôt sur une hausse des impôts sur le revenu, sur une hausse de la taxe sur les rachats d'actions, sur une hausse des impôts sur les sociétés. Voilà un petit peu. Mais quand même, globalement, assez de façon nuancée, légèrement protectionniste, plus ou moins, plus pour côté Trump, mais des politiques orientées offre quand même, pas grand-chose sur la relance keynésienne.
Oui, enfin, avec des grandes différences quand même quand on regarde les chiffres, puisque justement, vous parliez du protectionnisme vis-à-vis de la Chine. En effet, Donald Trump, lui, dit que s'il est réélu, il va augmenter les droits de douane pour tous les produits qui viennent de Chine de 60%. Lim, est-ce que ça veut dire que si Donald Trump revient au pouvoir, on peut s'attendre à une guerre économique entre les États-Unis et la Chine ?
Bah, elle a déjà lieu.
Là, elle sera largement amplifiée si on passe à 60%.
Dans le débat qui s'amorce, c'est le retour du clivage droite-gauche. Jusqu'à présent, on opposait les protectionnistes aux mondialistes, avec une caricature que fait le Rassemblement National en qualifiant les mondialistes, en classant les mondialistes à gauche et les protectionnistes de leur côté. Là, on se rend compte que, comme l'a dit Pascal, on est en face de deux protectionnismes. Et à cet égard, le bilan du mandat Biden est l'un des meilleurs bilans américains de l'après-guerre. Et on a un véritable protectionnisme de gauche, avec une réorientation vers la transition écologique et le financement d'une réindustrialisation verte. Et la guerre avec la Chine est à cet égard déjà lancée. Et de l'autre côté, on a un vrai protectionnisme de droite qui, par ailleurs, pense que les inégalités continuent de ruisseler et que les énergies fossiles, c'est pas un problème. Ouais. Donc là, on va avoir enfin un vrai débat dans un contexte où tout le monde se pose aujourd'hui le problème de la relocalisation. Et il serait de bon augure que ce débat soit importé chez nous en Europe.
ça avoir copié le modèle américain électoral. Vous êtes d'accord avec ça, autour d'un vrai clivage, là, Nicolas, ce que nous dit Lim à l'instant?
Alors, je ne vois pas exactement le même.
Il y a un autre clivage, vous voyez.
Je vois un Trump qui a beaucoup baissé les impôts dans son mandat précédent. Et ces baisses d'impôts, elles sont financées jusqu'en 2025. Et il dit, il faut falloir les pérenniser, les renouveler. Donc il veut défendre ça. Et il dit, la solution pour pérenniser les baisses d'impôts que j'avais mises en œuvre à l'époque, c'est de baisser les dépenses. Et il propose de baisser les dépenses, notamment environnementales, toutes les subventions à la transition.
Ressortir des accords de Paris.
Ressortir des accords de Paris. Ouais. Et de l'autre côté, Biden dit... j'assume, je veux l'accord de Paris, je veux de la dépense environnementale, je veux financer la transition. Et donc, ma solution pour financer les mesures que j'ai mises en œuvre, c'est d'augmenter les impôts et de détricoter ce qu'avait fait Trump. Et donc, il y a vraiment deux visions radicalement différentes. Je suis incapable de dire laquelle va dominer.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le paysage politique aux États-Unis ne se modernise pas.
Non.
Je suis pas d'accord avec vous.
Ah bon, vous trouvez?
C'est pas parce que c'est des candidats. Rappelez-moi l'âge des candidats.
Ils sont beaucoup plus modernes que Attal et Bardella ici. Je vous le dis, c'est pas l'âge qui fait.
Alors malheureusement, c'est le rappel des titres, mais on va en parler pendant la pause.
Ça va faire jaser, ça aussi. C'est la déclaration du soir. 19h31, on revient dans un instant.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Business, nous sommes avec Lim Hongnok, Nicolas Marques et Pascal de Lima. Guillaume, on s'attarde 30 secondes sur ce que Lim vient de nous dire. Lim, vous nous dites ce soir que ce match entre Biden et Trump, c'est plutôt une très bonne chose pour les États-Unis et pour le monde, et que c'est plutôt très moderne d'avoir deux présidents qui sont sur le devant de la scène. En fait, on voit toujours les mêmes, dont un qui ne sait plus placer les États-Unis sur la map monde, et c'est pas grave.
Un mandat aux États-Unis, c'est 4 ans.
Oui, enfin, quand même.
Et par ailleurs, c'est pas l'âge du capitaine qui fait la politique.
Non, mais quand le capitaine perd la tête, c'est quand même un souci.
On n'est pas dans la 5e République aux États-Unis. C'est des équipes qui gouvernent.
Et alors, justement, Kamala Harris,
on
vous avait promis une double gouvernance entre Joe Biden et Kamala Harris qui a complètement disparu du paysage.
Oui, mais ça, c'est pour la com. Mais le programme qui va être défendu par les démocrates est quand même un équilibre entre une aile droite et une aile gauche. C'est pas Biden qui décide. Biden est au point d'équilibre parce que c'est lui qui réalise la synthèse. Mais le programme fiscal, les mesures environnementales sont quand même des mesures qui sont défendues par l'aile gauche du Parti démocrate et qui contrebalancent.
Mais justement, dans les programmes, est-ce que vous sentez un vent de modernité ? Rien de nouveau sous le soleil, que ce soit à gauche ou à droite.
On vient d'en parler à l'instant. Oui. Le bilan de Biden est l'un des meilleurs de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale
aux États-Unis. Enfin, il a continué beaucoup de choses qui ont été mises en place par Donald Trump.
Non. Et l'Inflation Reduction Act, c'est le symbole important d'une réindustrialisation verte de la politique économique américaine. Bon. C'est quand même une première.
Un mot là-dessus, Nicolas, parce que très vite, et puis on va parler de la Chine après, non ?
Oui, je ne suis pas sûr.
Ce qui a fait dire à Lim juste avant la pause, donc Biden, c'est plus jeune qu'Atal. Voilà ce qu'il est.
Et mieux qu'Atal, surtout.
Mieux qu'Atal. Ouais.
Je suis d'accord avec Lim sur le fait qu'aux États-Unis, c'est un gouvernement et que c'est parfois moins centralisé et que le président a parfois moins de pouvoir que le président en France. Et puis il y a des assemblées et il y a des habitudes de négociation. Je ne suis pas persuadé du tout que le bilan de Biden soit meilleur que celui de Trump et que ça apparaisse comme tel à l'électeur américain. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la division de cette société qui se morcelle
très, très fracturée.
Sans fin. Et c'est plutôt ça qui m'interpelle et qui m'inquiète aussi. J'aimerais pas du tout qu'on suive leur modèle et qu'on se retrouve dans quelques années comme eux avec deux sociétés qui ne se parlent plus.
Non, mais sur le bilan, attendez, ils sont le PIB est 7 points au-dessus de ce qu'il était en 2019 avant la crise la crise Covid
développée.
Alors que si vous prenez la situation européenne, on n'est pas revenu au niveau de 2019. Oui, en France et en Allemagne,
vous avez vu ils
ont un meilleur bilan économique. L'inflation a été vaincue beaucoup mieux que chez nous
et ils ont engagé la relocalisation. Une dette LIM2 qui est à 150%
non, le taux d'endettement, il s'est stabilisé. Vous prenez j'ai mon collègue Tinel qui vient de publier un article dans l'Alter Echo là-dessus. Le ratio d'endettement s'est stabilisé alors ils ont fait du contracyclique, ils ont creusé les déficits à 8%. Oui. Mais ça a permis de booster la croissance, mais le ratio dette sur PIB, il a pas bougé.
Un mot, Pascal, très vite pour arbitrer là.
Très vite un mot, l'âge évidemment non, il y a des questions là-dessus, hein. Est-ce que l'âge influence sur la probabilité d'être réélu? Bon, il y a du oui et non, mais c'est plutôt non globalement dans ce que j'ai pu lire. La question de la conjoncture économique est plus ambiguë. Globalement, oui, effectivement, la conjoncture aide à être élu.
Au global, oui, c'est mieux.
Mais il y a des cas, comme Bush, Trump lui-même, qui avait été élu dans une situation économique compliquée. Et donc, voilà. Mais globalement, c'est vrai que c'est quand même le programme qui prime avant tout et les résultats concrets en matière d'inégalité, surtout aux États-Unis.
On verra déjà ce que nous diront les résultats du Super Tuesday dans quelques heures. On parle un petit peu de la Chine quand même.
Ah oui, voilà. Allez, on part en Chine qui vise officiellement 5% de croissance cette année. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré ce matin le Premier ministre chinois. Il l'a dit lors de la grande session de l'Assemblée nationale populaire à Pékin.
Alors, ça n'a pas vraiment impressionné les marchés. Vous allez entendre le Premier ministre Li Qiang qui a dit 5%, mais c'est pas gagné. Il faut dire que c'est pas très enthousiasmant la façon dont il a présenté les choses. Écoutez.
Il ne sera pas facile d'atteindre les objectifs de cette année. Nous devons donc maintenir le cap de notre politique, travailler plus dur et mobiliser les efforts concertés de toutes les parties. Les bases d'une reprise et d'une croissance économique durable en Chine ne sont pas suffisamment solides, comme en témoigne l'absence de demande effective, les faibles attentes du public et les nombreux risques persistants et dangers cachés.
5% de croissance, un chiffre qui ferait rêver de nombreuses économies, dont la nôtre. Néanmoins, ça reste l'objectif le plus modeste depuis des décennies pour la Chine. Et paradoxalement, Pascal, un objectif très ambitieux vu la conjoncture en Chine.
Un objectif très ambitieux. Il y a une conjoncture internationale de ralentissement de la demande vis-à-vis de la Chine qui est importante. Il y a une conjoncture internationale de protectionnisme, de volonté de recentrer les chaînes de valeur en Europe aussi, qui met un petit peu à mal le modèle purement d'exportation chinoise. Il y a un ralentissement des exportations aussi en Chine. Néanmoins, on voit une hausse de certaines exportations par rapport à d'autres. Je pense aux véhicules électriques, mais plein d'autres domaines liés justement au métier de demain et à l'environnement. Donc je pense qu'effectivement la Chine a une vraie volonté de passer d'un modèle de dépenses publiques d'investissement vers un modèle d'entreprise privée de consommation, avec derrière les métiers de demain et une volonté certainement de libéraliser encore davantage. Voilà, on est dans une phase de transformation, un ralentissement de la croissance économique. Ça reste quand même un pays avec un modèle traditionnel, hein, bien évidemment, un modèle économique traditionnel, peut-être trop auto-centré sur les exportations, mais on sent une volonté quand même de diversification aussi.
Enfin, une volonté de diversification. En même temps, aucun grand plan de relance annoncé par le gouvernement.
Non. Oui. On n'a pas réussi à faire évoluer le modèle qui était de passer des exportations à terrain vers la consommation intérieure. Et vous voyez aujourd'hui des consommateurs qui ont le moral dans les chaussettes, un chômage des jeunes à 15%, plus un secteur immobilier.
L'inflation encore.
L'inflation, un secteur immo qui pèse 25% du PIB et qui ne refait pas surface. Comment vous pouvez espérer ne serait-ce que 5% dans ces conditions, Lim? Comment vous regardez ça, vous?
Ah, ils ont fait 5,2 en 2023.
Ou alors officiellement, Lim. Hein,
après.
Vous y croyez au stade officiel?
En matière de surévaluation.
Est-ce que vous croyez au stade officiel du Parti communiste chinois, Lim? Quand on vous dit 5,2 en 2023, est-ce que vous y croyez? Quand on vous dit 5% pour cette année, est-ce que vous y croyez?
C'est ce qu'ils disent. Après, moi, je ne sais pas comment ils construisent leurs statistiques, mais bon, en matière de surévaluation des hypothèses de croissance, on est fort aussi, quoi. On les a révisés à la baisse il y a pas plus tard que 2 semaines, et jeudi, il y a un décret, et ça sera mon coup de gueule de tout à l'heure, il y a un décret qui est sorti pour dire que vous avez, au ministère, vous avez 10 jours pour faire les fonds de tiroir et trouver 10 milliards.
Bon, okay.
Bref, ça, c'est un autre sujet, mais oui, de toute façon, la Chine est à un tournant. Enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Pascal sur la conjoncture. Maintenant, structurellement, ils sont à un tournant parce que il est clair que la stratégie de relocalisation des pays occidentaux va briser un modèle qui était construit sur l'attrait des délocalisations
occidentales.
Et ensuite, il y avait une espèce de copiage avec les brevets que les Chinois nous piquaient, et puis après ils ont construit leur propre industrie et ils ont basé leur stratégie sur l'exportation. Maintenant ils sont à tournant parce que ils vont devoir développer leur marché intérieur. Ils ont un grand marché intérieur qui a d'énormes potentiels, mais il va falloir qu'ils ressentent leur stratégie sur une croissance
avec une population
endogène.
Qui s'appauvrit de plus en plus. Non, mais là, le gouvernement mise beaucoup sur les investisseurs étrangers, sauf que je vous rappelle que l'an passé, ces investissements venus de l'étranger ont chuté de 82%.
Ben, c'est pour ça qu'ils vont devoir reconsidérer leur modèle.
Nicolas, c'est quoi le futur modèle de la Chine pour vous?
C'est assez classique, hein, les arbres ils montent pas jusqu'au ciel, donc ils ont eu un modèle d'exportation. Ouais. Ils ont eu un modèle de rattrapage. On a vu dans d'autres pays asiatiques. Le Japon, pendant des années, a eu des chiffres de croissance incroyables. Et puis, ils se sont stabilisés. Et maintenant, ils ont des croissances tonnes.
Oui, là, on voit bien quand même, Nicolas, qu'après, justement, les déclarations du Premier ministre, la plupart des actions asiatiques ont chuté avec une forte baisse à Hong Kong. On sent bien que les marchés n'achètent pas, justement, vraiment cette transition.
Globalement, ça fait plusieurs années que dans les indicateurs, on se demande, à juste titre, si la croissance chinoise n'est pas en train de baisser. Mmh. Et ils ont eu un modèle, vous l'avez tous les deux dit, hein, de croissance sur les exportations. Et maintenant, leur plan, c'est de construire une croissance sur le marché intérieur. Mmh. Ça va prendre du temps. Et c'est pas évident que cette croissance soit significative.
Ils sont là où on était, nous, dans l'après-guerre, en fait. Ils doivent développer un fordisme à la chinoise, pour parler comme les initiés de la théorie de la régulation. Après, ils passeront à autre chose, mais leur vrai sujet, c'est ça, quoi.
Le fordisme à la chinoise, ça, c'est
pas mal. C'est comment développer une consommation intérieure qui leur permet de...
Oui, mais ça fait combien d'années qu'ils courent après ce modèle, justement? Ça fait combien d'années qu'ils courent après ce modèle, Pascal? Enfin, c'est quand même...
Ça fait très longtemps. Il y a eu des vagues de libéralisation importante. Il y a eu des vagues d'autonomie du secteur privé aussi. Et c'est vrai que le fait de rendre plus autonome les salaires, c'est aussi le pouvoir d'achat et donc la consommation. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu des politiques au moment de la Covid qui a accéléré la chute aussi et la transformation de l'économie chinoise, hein, avec tous ces confinements à répétition et le modèle exclusivement ancré sur le secteur réel immobilier. C'est pas un scoop, hein, on a vu les conséquences que ça avait sur
Nicolas. Nicolas, pour conclure sur le sujet.
On se rend compte beaucoup que c'est Covid qui a accéléré. A priori, le ralentissement, il était bien avant Covid. Et n'oublions pas, mais un truc évident, dans les premiers mois, la politique qui a été appliquée en Chine, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie ou autre. Ils ont fait des confinements qui, dans les premiers mois, étaient localisés. Et le reste du territoire fonctionnait bien, que ce soit en termes économiques ou que ce soit en termes de liberté publique, s'agissant de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Alors après, la pandémie a évolué et est devenue hors de contrôle, mais pour moi, le ralentissement chinois... il est bien avant Covid, et ils ont géré Covid à leur façon.
C'est le mot qu'on puisse dire.
Mais globalement...
avec beaucoup d'écueils sur le plan social.
Voilà, il n'y avait pas de solution évidente face à ça.
Voilà pour la Chine. Donc les paris sont pris, 5% pour cette année, nous disait ce matin le Premier ministre. On verra ce qu'il en sera dans quelques années. On vient en France.
Avec ce chiffre dont on voulait vous dire un mot qui est un peu passé sous les radars en fin de semaine dernière. L'an dernier, nous dit l'INSEE, on a recruté, tenez-vous bien, 59 000 personnes dans la fonction publique, alors qu'on devait faire l'inverse, pour atteindre quasiment les 6 millions de personnes entre fonctionnaires et contractuels. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que réduire les effectifs de fonctionnaires, c'est l'éternelle utopie française, voire une obsession ? Pascal.
C'est quand même le service public, donc d'une certaine façon. Et puis il y en a eu 150 000 de créés dans le privé au même moment. Donc il y a un ruissellement aussi sur le secteur public, c'est assez normal. Ça, c'est un premier point. Ensuite, les services publics, c'est un deuxième point. Puis troisième point, il y a aussi l'État-providence qui est quand même important, qui crée aussi de la croissance économique. En passant, l'idée d'un emploi sûr, un peu plus à vie, quelque chose qui est serein et stable pour les familles, c'est pas mal non plus aussi. Le secteur public. Hein. Bon, puis il y a les contre-arguments qui est,
Alors, je sais.
De dire, il faut y aller de la dette, les déficits, qui sont, à mon avis, des faux arguments. Mais...
Alors, justement, vous êtes dans quelle catégorie ? Vous dites formidable et on a créé les besoins qu'il faut dans la police, les militaires, les greffiers, etc. Vous dites, les agences de notation nous regardent.
Et puis les profs,
Et puis ça n'est pas bon pour la maîtrise des dépenses publiques, finalement, à l'arrivée.
Moi, j'ai vérifié toutes les sources.
Ah, et alors ?
Et alors, le chiffre que vous annoncez est publié par le JDD.
Non, c'est l'INSEE, attendez.
Le chiffre de l'INSEE.
Attendez, j'y viens à l'INSEE.
Ouais.
Le JDD a interprété la note de l'INSEE restituant l'évolution de l'emploi salarié dans la fonction publique. L'emploi salarié.
Mais moi, j'interprète pas le
chiffre de l'INSEE. L'emploi salarié, vous lisez... Le rapport l'état de la fonction publique, le rapport officiel du ministère de la fonction publique, il distingue les agents de la fonction publique et les contrats aidés.
Et les contrats,
là, ils mettent tout ensemble. Oui. Et le JDD en déduit avec un grand titre 59 000 fonctionnaires en plus. Alors qu'en fait, c'est pas 59 000 fonctionnaires.
Il n'y a pas que le JDD qui s'en est fait l'écho.
Non. Il dit fonctionnaire. C'est écrit fonctionnaire.
On vous a dit fonctionnaire tout à l'heure.
Dans la publication de l'INSEE, c'est les salariés, c'est-à-dire les contrats aidés. Enfin, tous les contractuels qu'on embauche parce qu'on embauche plus de fonctionnaires.
Oui.
Mais la réalité.
Elle est là. Alors voilà un graphique que vous nous montrez.
On va le montrer gros plan.
Ici la caméra automatique qui peut.
Alors voilà, mais expliquez-nous pour ceux qui nous écoutent à la radio.
Là, c'est l'évolution de l'emploi l'emploi public
dans fonctionnaire, l'emploi total.
Hors contrat aidé. Là, c'est hors contrat aidé, c'est la publication de l'INSEE.
Depuis 1989.
Ouais. Et là, vous voyez bien que ça s'effondre depuis 10 ans. Ça s'effondre depuis 10 ans.
Pascal, vous avez envie de réagir, allez-y.
Je suis complètement, effectivement,
d'accord. C'est la part dans l'emploi total.
Et c'est ce que je voulais dire dans le deuxième point, après la maîtrise des faux arguments sur la maîtrise des déficits et de la dette, c'est qu'effectivement, quand on parle de 6 millions d'emplois publics, on inclut des fonctionnaires en CDI et on inclut une grande partie aussi de personnes en situation de précarité professionnelle.
On a bien cité les contractuels tout à l'heure dans le lot. Tout à fait. Attention.
Les
fonctionnaires et contractuels.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a 59 000 fonctionnaires en plus. C'est 59 000 fonctionnaires et contractuels.
Mais les
effectifs de la fonction publique en tant que telle, les fonctionnaires, ils évoluent à un rythme de 0,3% par an. Depuis 2020 et 0,5% par an entre 2011 et 2021, c'est pas plus 1% par an.
Mais alors, attendez,
il suffit de se promener dans les services publics, dans les hôpitaux et dans les écoles pour se rendre compte qu'il n'y a pas de fonctionnaires et qu'on est obligé d'embaucher des contractuels précaires pour faire le boulot qu'on ne veut pas faire aux fonctionnaires.
C'est bien ça la réalité. Est-ce que ça veut dire, pour commenter votre graphique, que les dépenses de personnel de l'État ont baissé ou sont en train de baisser et qu'on n'est plus à 5% du PIB du pays?
ce que je vous dis là, c'est atteste qu'il y a une austérité dans la fonction publique et que les fonctionnaires que vous ne recrutez pas, vous êtes obligés de faire faire leur boulot par des gens qui sont moins bien payés. Alors effectivement, il y a des emplois en plus qui sont créés, qui sont des emplois aidés, des contractuels, tout ce que vous voulez.
Justement, les effectifs de fonctionnaires, leur réduction, c'est toujours brandi comme la méthode ultime de réduction budgétaire.
Mais là, on n'embauche pas de fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est... Alors en plus, la cible prochaine des libéraux, ça va être le statut, parce que le statut, c'est des dépenses de fonctionnement qui courent sur le long terme. Là, on embauche des contractuels parce que c'est pas budgété sur le long terme.
Alors, Nicolas Marquez.
Juste un dernier coup de gueule, c'est quand même le JDD. Attendez, le JDD a changé
de
direction il y a pas longtemps.
Non, mais attendez, on a pas pris l'article du JDD.
Ils se sont des meilleurs journalistes et ça se ressent dans le rendu de l'information.
Le message est passé.
Le chiffre officiel de l'INSEE, on s'est pas inspiré des
chiffres. Non, je vous parle du titre du JDD qui est 59 000 fonctionnaires en plus, alors que c'est pas 59
000. Nicolas, allez, on passe la balle.
Je vais reprendre un peu de champ. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, depuis 2017, l'emploi il a progressé de 2,1 millions de personnes en France. Et comment ça se décompose? Il y a 2 millions de postes en plus dans le privé. Et puis, il y a 92 000 personnes en plus dans le secteur public. Alors, c'est des fonctionnaires, et il n'y a pas que des fonctionnaires, comme on l'a dit. Et donc, concrètement, 96% de l'augmentation de l'emploi, ça a été dans le secteur privé. C'est une bonne nouvelle, parce qu'on a un moteur de création de richesse qui était totalement anémié, et qu'on est incapable d'équilibrer nos comptes depuis des décennies, parce que comme on ne crée pas assez de richesse, si on a trop de dépenses collectives, on ne peut pas les financer. Ce qui s'est passé l'an passé, c'est différent. Il y a eu 150 000 créations d'emplois salariés, et il y en a eu 100 000 dans le secteur privé il y en a eu à peu près un peu plus de 50 000 dans le secteur public. Donc là, le secteur public a représenté un gros paquet, 40% de la création d'emplois.
Je vous rappelle que Emmanuel Macron s'était engagé à supprimer 50 000 emplois dans la fonction publique, justement, précisément.
Ok, mais au global, à ce stade, il en a créé 92 000. Et le vrai sujet, c'est surtout que la création d'emplois dans le secteur privé a diminué. On est à 100 000 emplois créés. Et c'est beaucoup moins que les années précédentes.
Il y a un retournement.
On a un vrai retournement.
Il y a un retournement conjoncturel. Les prévisions de croissance ne sont pas bonnes pour l'année prochaine.
Le vrai chiffre inquiétant, c'est que notre moteur de création de richesse, il se calme.
Ouais.
On est à 7,5% de chômage en France. On est à 6% de chômage dans le reste de l'Union européenne. Donc on a 1,5% de chômage en trop. On a 400 000 chômeurs en trop.
Ouais.
Et le vrai axe politique qu'on devrait en conclure, c'est qu'il faut continuer à baisser la fiscalité sur les entreprises. Il faut continuer à baisser les entreprises.
C'est à 3 minutes de la fin.
Parce que c'est ce qui a...
Vous allez mettre l'île en colère.
Et là, le gouvernement peine. Il diffère les baisses des impôts de production. Ouais. Et donc, il va aggraver le mal.
Et après, vous allez dire que l'endettement augmente.
Allez.
Non, alors qu'on a fait 50 milliards de baisse d'impôts.
Parce que les impôts de production
ne rapportent rien. Ils vous rapportent du chômage.
Bah, les baisses d'impôts n'ont pas rapporté grand-chose en termes de croissance.
On n'est pas d'accord là-dessus ce soir.
Allez, il reste moins de 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time. Un peu trop tôt malheureusement, parce qu'on était bien parti. L'extra time, vos humeurs du soir, autres humeurs, 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur. Bah, Lim, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous voulez commencer? Allez, 30 secondes, c'est à vous, Lim, on vous écoute.
Bah, le coup de gueule, c'est le coup de rabot de 10 milliards et le décret de jeudi dernier pour dire au ministère, vous avez 10 jours pour refaire les fonds de tiroir et trouver 10 milliards. Et donc l'austérité va nous en dans une nouvelle spirale déflationniste et on va se retrouver comme dans les années 2010 avec des taux d'endettement qui se creusent au lieu de baisser, d'autant que les baisses d'impôts que vous recommandez ont eu lieu et nous amputent aujourd'hui de 50 milliards tous les ans. Et
voilà, c'était le cri du cœur de Limon Gnoc. Nicolas Marquez, c'est à vous.
Alors, mon cri du cœur, c'est l'établissement de retraite additionnelle à la fonction publique. C'est le plus gros fonds de pension en France. Il y a 43 milliards. Et ces 43 milliards, ils font des petits parce qu'ils nous rapportent chaque année des dividendes et des plus-values. Et ça permet de payer des retraites plus attrayantes pour les fonctionnaires. Et donc, contrairement à ce que disait Lim, il y a des moyens de financer des prestations sociales sans prélever des impôts. Il faut créer de la richesse. C'est l'enjeu pour la France.
Ben voilà, le coup de gueule, le coup de cœur, c'est un coup de cœur. Donc les Allemands instaurent une dose de capitalisation pour les retraites, ça a été annoncé cet après-midi. Là, ça y est, on arrive.
Bonne nouvelle.
On avance. Je parle en Célim là-dessus, parce qu'il nous reste une minute, grosso modo. Pascal Delima, c'est à vous, votre humeur du soir, Pascal.
Ben, mon humeur du soir, ça tombe très bien, c'est de lire Jérémy Rifkin et de voir les conséquences de l'automatisation et du développement effréné de l'intelligence artificielle, notamment, dans le secteur public et aussi dans le secteur privé. avec des conséquences néfastes sur la précarité technologique. C'est-à-dire que les technologies apportent aussi beaucoup de précarité. C'est pour ça qu'on a des contrats courts de plus en plus, des slashers qui gagnent de moins en moins payés à la tâche. Donc attention à ce que les technologies et l'automatisation enrichissent les métiers, créent de l'emploi, et pas l'inverse en fait.
Dixit, Jérémy Rifkin, merci beaucoup Pascal, voilà pour votre coup de gueule ce soir. Voilà, merci messieurs, c'est fini pour ce soir, 19h55, Lim Wang Nok, Nicolas Marquez et Pascal Delima. Merci messieurs, à très vite avec grand plaisir sur BFM Business pour d'autres aventures. 19h55, c'est fini.
C'est terminé, c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Ou alors sur bfmbusiness.fr. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir, évidemment.
Bien sûr, demain soir, 18h, 20h en direct pour de nouvelles aventures. Dans un instant, Tech & Co, François Sorel et toutes ses équipes. Très bonne soirée à toutes et à tous.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.